Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal présenté par Grace Amzati.
Le gouvernement provincial du Maniema s'en va en guerre contre les tracasseries des populations par les services de l'État. En effet, plus de 120 barrières érigées illégalement à travers la province sont supprimées par les gouverneurs afin de permettre aux habitants d'évacuer librement à leurs occupations. Les déplacés des guerres vivant dans la ville de Beni au nord Kivu qui avaient fui les attaques des rebelles ADF il y a 6 mois commencent à retourner dans leur milieu d'origine. Pourquoi rentrent-ils? Est-ce que la sécurité est assurée? Des précisions dans ce journal. Notre invité est le psychologue clinicien et coordonnateur Counseling à Île Africa. Vincent Semou nous parle de la campagne de sensibilisation des parents qui ont des enfants souffrant des pieds bos dans la ville de Kananga au Kasaï central. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour à tous. Dans la province du Maniema, le gouverneur Moussa Kabwankubi Moïse supprime plusieurs barrières érigées illégalement sur l'ensemble de la province pour ainsi permettre à la population de circuler librement. Sur 185 barrières qui existaient, on ne retient que 60 dans l'ensemble de la province. Ceci a été adopté au cours d'une réunion ayant réuni les membres du Conseil provincial de sécurité, les chefs religieux, la société civile dans sa diversité ainsi que les associations des conducteurs. On écoute le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Lawamo Silimani Taylor, qui revient sur les condensés de cette réunion dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Il a été question de pouvoir réfléchir sur le nombre de barrières qui existent parce que il y a des inquiétudes à gauche et à droite telles que la population était en train de subir des traumatisations par certains services-là. Une pléthore de services au niveau des barrières et aussi les tâches que les responsables doivent faire. Donc pour laquelle, en faisant participer tout le monde, il y a un certain nombre de barrières au lieu de plus de 680 qui ont existé. Parce qu'on aura moins de 70 barrières avec les échanges que nous avons eu. Pour l'autorité, vous voulez aller à moins même de 50, mais les forces vives, la société civile, les confessions religieuses ont estimé qu'il faille, pour certains endroits stratégiques d'ailleurs, ce sont les forces vives qui commençaient à nous indiquer certains endroits où il fallait placer des barrières pour des raisons de sécurité. D'abord, ce qu'il faut retenir est que la Constitution garantit la libre circulation. Mais pour des raisons de sécurité, il y a certains endroits où nous avons, vous pouvez voir un agent vous arrêter et il y a même des services qui ont été indiqués. Et là, je vous préviens déjà qui est dans la motivation de cet arrêt. Celle de la dégèrement aura des perceptions à faire.
Et puis, des dizaines de milliers de pêcheurs se sont installés dans les zones de reproduction des poissons sur le lac Albert et utilisent des filets prohibés. C'est le constat fait par les administrateurs des territoires de Djougou et Irumu lors de leur première mission le week-end dans cette partie de la province de l'Ituri, à la frontière avec l'Ouganda, ce qui a comme conséquence la baisse des productions de poissons et la disparition de certaines espèces de poissons. Ces autorités ont pris certaines dispositions pour la réglementation des pêches dans ces entités situées à la frontière avec l'Ouganda. Isaac Remo.
Les îlots de Rukwanzi, Matete, Semuliki et d'autres localités au bord de la Calbert, dont Chicha, Chirichi et Malonga, qui ont fait l'objet de la visite des deux administrateurs des territoires, servaient de réserves pour la reproduction des poissons depuis des décennies. Mais ils sont transformés actuellement en milliers d'habitations où plus de 10 000 pêcheurs et leurs dépendants se sont installés. Ils y ont construit des logements, des maisons de commerce et même des églises. Pire encore, ils utilisent des filets à mailles prohibés, profitant de l'absence des services de l'État qui font parfois des patrouilles de surveillance à partir des Tchoumé et Kassigny. Ces autorités ont pris certaines dispositions dans les respects stricts de la réglementation de la pêche et la fermeture temporaire du lac Albert de manière cyclique pendant 3 mois pour permettre la croissance des poissons. Cette dernière mesure est soumise au gouverneur en vue de prendre un arrêté, a déclaré l'administrateur du territoire de Djougou, Rifin Makbela.
Nous avons donné des instructions, 3 mois de pêche et 3 mois de fermeture. Ça nécessite nécessairement un arrêté du gouverneur de la province. Les souhaits de tout le monde étaient que nous puissions arriver à réglementer pour que nous puissions en avoir beaucoup de poissons.
Cependant, la mesure efficace serait de déguerpir tous les pêcheurs de ces zones de reproduction des poissons pour que le lac Albert puisse reprendre son statut datant des lacs les plus poissonnés du monde. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Comme annoncé au sommaire, au nord Kivu, plusieurs ménages déplacés, hébergés jusqu'à présent dans des familles d'accueil à Beni, commencent progressivement à regagner leur milieu d'origine. Beaucoup avaient fui il y a 6 mois les attaques des rebelles ADF dans plusieurs localités du territoire de Beni. Le service local de la protection civile observe ces retours progressifs depuis environ 1 mois. Marc et Marofimbo nous en dit plus.
Bien que les chiffres exacts ne soient pas encore disponibles, de nombreux déplacés ont décidé de retourner dans les localités de Kantine, Mangina et Mabalako dans le territoire de Beni. Le déploiement des forces armées congolaises et ougandaises dans la région a rassuré ces ménages qui retournent dans ces zones autrefois ciblées par les attaques des rebelles des ADF et d'autres groupes armés locaux. Jean-Paul Kapitula, responsable de la protection civile à Beni, explique que cette situation entraîne une diminution du nombre de déplacés dans la ville de Beni.
Pour le moment, il s'observe un retour non dit parce que avec une évaluation faite par le service des affaires humanitaires, il se pourrait que le chiffre, comme précédemment annoncé au mois de mai, de 4494 ménages qui étaient observés dans la ville, aux environs, aujourd'hui serait revu à la baisse, autour de 3000 quelques ménages.
Il convient de noter que la ville de Beni continue d'héberger de nombreux déplacés, fuyant les attaques des ADF d'une part et d'autre part l'occupation de certaines localités du territoire de Lubero par la rébellion du M23. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Ces mouvements de retour volontaires des déplacés s'observent également dans les territoires de retour toujours au Nord Kivu. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires parle de plus de 383 000 personnes concernées par ces retours volontaires. Dans son rapport du mois de juillet dernier rendu public hier, OCHA met aussi l'accent sur la situation sécuritaire qui reste préoccupante, notamment dans les territoires de retour et des Masisi. Nord Kivu encore, la société civile de la commune de Mulekera, nous sommes dans la ville de Beni, s'inquiète de la situation sécuritaire préoccupante qui prévaut particulièrement à Mulekera. Depuis près de 2 mois, cette commune a connu plusieurs cas de justice populaire, faisant 4 victimes et entraînant l'incendie de 10 maisons. Ce bilan a été présenté lors d'une réunion évaluative de la situation sécuritaire tenue le mardi. Tout en appelant les autorités locales à redoubler d'efforts pour sécuriser la population et ses biens, cette structure citoyenne invite la population à rejeter les antivaleurs et à soutenir l'armée. Joseph Sabouni, président de la société civile de Mulekera, les déclare au téléphone de Guylaine Kassassia.
Les 2 mois écoulés, nous venons d'enregistrer plusieurs biais de valeur portés par les cas de cambriolage, par les inconnus, plusieurs maisons brûlées et on a perdu beaucoup de personnes dans la justice populaire. Je prends l'exemple de Céline Cook, on a brûlé cette maison, on a perdu 2 personnes par la justice populaire. Au niveau du quartier Kasangatour, on a perdu 3 maisons brûlées et 2 personnes mortes par la justice populaire. Nous recommandons aux autorités de bien renforcer la morale des chefs de base et prendre en considération leurs alertes aux autorités militaires de bien traiter les dossiers des Wazalendo dans la ville de Beni, de bien contrôler et discipliner les patrouilleurs à la population, de cesser avec la justice populaire, privilégier la cohésion sociale, de collaborer avec les services de sécurité.
Non loin de là, dans la même province, les défenseurs judiciaires ont organisé une marche pacifique le mercredi à Butembo pour dénoncer les cas de criminalité dans la ville. À cette occasion, le syndic a déposé une plainte contre inconnu à l'auditorat militaire garnison de Butembo et un mémorandum à l'hôtel des villes. C'est après le meurtre dans la nuit de mardi d'un défenseur judiciaire de Butembo à son domicile. Maître Moïse Ndekeyongye, syndic du ressort, explique leur démarche au téléphone de Sadiq Aboubakar.
Les défenseurs judiciaires se sont mis à rédiger d'abord une plainte qu'on a eu à déposer à l'autorité militaire et après on est parti déposer un mémorandum à la mairie comme c'est le monsieur le maire qui est le patron de la sécurité de la ville. Et aussi l'assassinat du confrère, c'est un cas qui vient après 2 ou 3 cas passés. Récemment c'était un ancien journaliste, il y a eu encore un motard, alors toujours des meurtres par balle. Alors ça a été attiré l'attention des défenseurs judiciaires. Ainsi, comme nous allons enterrer le confrère jeudi, nous avons jeté aujourd'hui de venir voir le maire et lui demander d'activer ce service de sécurité et faire dénicher ces bandits, ces malfrats là qui est sécurisé avec des Butembo. Et aussi à l'arbitre militaire, déjà de monter en tout cas au créneau par rapport à la plainte, d'investiguer sérieusement et une fois la même mise sur ces bandits là, de faire nous donner sa flagrance. Merci journaliste.
Nous restons en Nord Kivu pour vous dire que les casquets bleus sud-africains de la MONUSCO basés à Beni ont été décorés hier de la médaille de l'ONU. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le général des divisions Oscar Diouf, commandant adjoint de la force de la MONUSCO. Ces médailles sont remises à des soldats de l'ONU en guise de reconnaissance pour leur contribution dans la recherche de la paix. Le général Oscar Diouf a profité de l'occasion pour rendre hommage aux casques bleus tombés sur le champ d'honneur dans l'exercice de leurs fonctions. Présent à cette cérémonie, Jacques Manokou, chef du quartier Matembo dans la commune de Moulekera, l'une des communes de Beni, autrefois ciblée par les ADF, témoigne de l'apport de la MONUSCO dans la pacification de la région. Il est au micro de Gréville Salomon.
Ici à Matembo, on est bien sécurisé avec la MONUSCO. Je suis d'accord avec ces médailles. C'est mérité vraiment. Les cultivateurs commencent à accéder à leur champ. Il n'y a pas d'inquiétude vraiment. Et avant, c'était plus pire vraiment. Les ADF étaient en train de diampiler dans les champs. Actuellement, c'est bon. Aujourd'hui, nous sommes très très bien. Il fait chaque fois des patrouilles nocturnes à collaboration avec nos phares d'essai. Nous sommes bien rassurés avec la MONUSCO. Parce qu'on est en train d'échanger avec eux concernant la sécurisation de notre quartier et ma vie aussi. Qu'il reste encore ici pour bien nous sécuriser. Néanmoins, il faut qu'il renforce encore ces mécanismes pour nous sécuriser très bien vraiment.
Direction la province de la Tchopo, où l'ambassade des États-Unis en RDC renforce sa coopération avec l'Institut supérieur pédagogique de Kisangani à travers son espace culturel. Une délégation de cette ambassade séjourne actuellement à Kisangani pour le besoin de la cause. Elle vient en effet de renforcer ce partenariat en dotant l'ISP Kisangani d'un groupe électrogène de 15 kVA. Ces infrastructures, parmi lesquelles figure l'espace américain, sont en cours de réhabilitation depuis lundi dernier. Le point à Kisangani avec Jacques Mukonkole.
Cette intervention de l'ambassade américaine à l'ISP Kisangani est une réponse au plaidoyer du directeur général de cet établissement d'enseignement supérieur, le professeur Jacques Riverain Lofemba. Le secrétaire général académique et DG intérimaire de l'ISP s'en réjouit. Professeur Joaka Libumba.
La vie s'accélère à l'espace américain à l'ISP, donc globalement à l'ISP. Ils viennent de nous doter d'un groupe électrogène de 15 kVA. C'est pour dire à toute coupure de courant correspondra directement à un allumage de ce groupe. Le courant sera permanent à l'ISP. C'est une grande chose pour les enseignements, pour les recherches.
Les plus heureux de cette dotation, à savoir les étudiants, ne cachent pas leur satisfaction, comme en témoigne Plamedi Maïdika, étudiante en L3 sciences commerciales.
Nous qui avons commencé avec le système LMD, c'est un système qui marche de pair avec la connexion Internet. Ça facilitera les recherches, surtout à notre ère où les jeunes préfèrent plus la bibliothèque virtuelle. Et avec cette connexion, il y aura facilité au niveau de recherche et surtout de l'apprentissage.
Outre les groupes électrogènes, l'espace d'échange culturel américain est en train d'être rénové. Au terme des travaux en cours, la connexion Internet sera installée pour l'amélioration des conditions de travail dans cet établissement. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Parlons de l'ouverture hier, ici à Kinshasa, de la première édition de la Foire du Livre Chrétien. Ce rendez-vous est organisé par l'ASBL Likabo sous le thème « Voir par les livres ». Écrivains et partenaires étaient présents à cette activité à la fois scientifique et chrétienne pour les lecteurs. Étienne Lissoumbou nous en parle dans ce reportage.
Dans son mot d'introduction, le pasteur Rémi Djunga, initiateur de cette activité, sensibilise les chrétiens et la population en général à la lecture.
Si ceux qui nous ont précédés ont écrit et nous ont aidés, eh bien nous leur devons aussi de pouvoir partager à ceux qui viendront après nous, eh bien ce que nous avons expérimenté.
Jean-Clément Diambilay, économiste et pasteur, un des panélistes, encourage les pasteurs de la RDC à écrire pour pérenniser la parole des dieux.
Il y a des générations qui viennent qui doivent s'inspirer de vous, de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Parlez en écrivant de ce que Jésus a fait dans votre vie, de ce que Jésus est dans votre vie.
Pour Alia Elessé, représentante de la ministre de la Culture et Arts, il est temps de donner au livre sa valeur.
Elle aimerait faire la promotion du livre, la lecture, comme un transfert de savoir, un transfert de connaissances. Nous avons beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis dans ce cadre-là. Nous avons la Bibliothèque nationale qui doit être revisitée, réhabilitée. Nous avons les archives du Congo aussi qui nécessitent une attention particulière. Pourquoi ? Parce que la pensée du peuple congolais passe aussi par ses écrits.
Signalons qu'outre les ouvrages, certaines entreprises exposent aussi leurs produits. La foire ferme ses portes les dimanches 18 août.
Actualité internationale.
15 civils ont été tués et plusieurs blessés en début de semaine par des terroristes dans plusieurs villages de la région des Tillabéri. dans l'ouest du Niger, près du Burkina Faso, annonce l'armée mercredi 14 août dans la soirée dans son dernier bulletin. Dans la zone de Mehana, des éléments terroristes ont perpétré plusieurs exactions odieuses contre les populations civiles sans défense. Le bilan est lourd et tragique. 14 personnes ont perdu la vie et plusieurs personnes ont été blessées, indique l'armée sans préciser des dates. Mardi, un autre civil est mort et 3 ont été blessés dans la même zone lors d'un accrochage avec des terroristes, ajoute-t-elle.
L'invité.
C'est Vincent Semou, psychologue clinicien et coordonnateur Conciling à Île Africa. Il pilote une campagne de sensibilisation des parents qui ont des enfants avec les pieds beaux à Kananga. Nous sommes dans la province du Kasaï central. La structure HopWorks RDC, en partenariat avec l'hôpital Île Africa de Goma, s'engage à réparer cette malformation. Vincent Semou s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Vincent Semou, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
À Kananga, pour une campagne de sensibilisation pour le traitement d'une malformation chez les enfants, le pied beau, en quoi consiste ce travail?
Nous sommes très heureux de nous retrouver à Kananga. C'est pour une grande activité de partenariat avec l'hôpital général de référence de Lukonga dans le cadre des traitements des enfants qui naissent avec la malformation des pieds beaux. Parce que dans cette partie du centre de la RDC, nous n'avions pas un partenariat. Alors nous sommes très heureux de voir que notre partenariat marche parce que nous avons signé déjà de part et d'autre les contrats de partenariat avec cette structure.
Le pied beau, quels sont les causes de cette malformation et pourquoi le traitement de cette malformation vous intéresse?
Le pied beau, déjà, c'est une malformation congénitale qui fait que, au lieu que l'enfant puisse marcher sur la plante des pieds, il marche sur le dos de son pied. Et c'est très douloureux. Nous sommes très intéressés de soigner cette malformation parce que les enfants qui grandissent avec cette malformation sont stigmatisés dans la communauté. Ils ont aussi la difficulté de marcher. Et il y a beaucoup de conséquences si une fois la malformation n'est pas soignée. Ce qui fait à ce que nous puissions plus nous pencher à ça pour que tous les enfants qui naissent puissent grandir en marchant normalement sans cette malformation des pieds beaux. Parce que déjà en RDC, on constate que 5000 cas d'enfants naissent avec la malformation des pieds beaux. Et déjà avec notre organisation HopWorks en partenariat avec Île Africa, nous réussissons à soigner 1000 cas à peu près. Pour dire qu'il y a 4000 enfants qui grandissent avec cette malformation. Et voyez-vous, c'est déjà un problème parce que même dans la vie adulte, lorsqu'un jeune garçon veut se marier, lorsqu'une jeune fille veut être mariée avec cette malformation, ça constitue un blocage. Même sur le plan professionnel, il y a certains qui n'acceptent pas d'engager des personnes qui présentent les malformations.
Pour Kananga, ce qui vous amène, ce sont les données qui démontrent qu'il y a des enfants qui ont cette malformation ou vous êtes d'abord venu en prospection pour après commencer le traitement?
Avant de venir ici, nous avons été en contact avec l'équipe locale qui nous a déjà donné des statistiques. Et ça montre estimativement que Kananga ne peut pas manquer plus de 500 qui peuvent naître dans cette province des Kasaï central. Alors, avec cette estimation, nous disons c'est très important de venir au secours de cette population parce que les données montrent que c'est plus, entre guillemets, les peuples qui ont des revenus faibles, qui sont plus exposés. Et c'est pourquoi nous sommes venus avec cette prise en charge gratuite qui est assurée par HopWorks et Île Africa pour apporter un sourire, un espoir de guérison à ces enfants qui naissent avec les pieds beaux.
Pieds beaux, comment se fait le traitement et c'est quoi la durée?
Merci beaucoup pour cette question importante. La prise en charge des pieds beaux s'est faite en utilisant la méthode Ponseti. La méthode Ponseti est utilisée en deux étapes principales, dont la première étape, c'est une étape de correction où nous utilisons les plâtres, mais aussi nous faisons une petite intervention chirurgicale dénommée la ténotomie. Et la deuxième étape très importante, c'est une étape de maintien où nous utilisons les attelles. Ce sont des souliers spéciaux que les enfants portent pour maintenir la correction qu'ils ont obtenue en premier avec les plâtres.
Le coût pour le traitement de cette maladie permet pas à certaines familles de le faire. Alors quel message vous passez à toutes les familles qui ont des enfants qui ont cette malformation?
Le message que nous lançons à toute la communauté de Kananga, la communauté de Kasaï central, c'est que les pieds beaux est soigné et la prise en charge est vraiment gratuite. Alors, nous voudrions demander à toute la communauté que, une fois qu'elle rencontre un cas de pied bot, qu'elle ne puisse pas hésiter de l'orienter ici au sein de l'hôpital général de référence de Lukonga pour une prise en charge efficace et gratuite. Et c'est pour, effectivement, la tranche d'âge des enfants dont l'âge varie entre 0 et 2 ans. Parce que pour cela, la méthode Ponseti est efficace. Dépasser 2 ans, en tout cas, la méthode, on peut l'appliquer, mais les résultats n'est pas escompté comme au tout petit. C'est pourquoi nous encourageons les parents de ne pas hésiter de saisir cette opportunité, surtout à partir du mois d'octobre 2024. Les activités seront lancées et là, l'hôpital général de référence de Lukonga, en tout cas, va recevoir tous ces enfants-là gratuitement.
Docteur Vincent Simon, nous vous disons merci.
Notre invité qui nous parlait de la campagne de sensibilisation des parents qui ont des enfants avec les pieds bots à Kananga était interrogé par François Kadima. C'est la fin de ce journal coordonné et supervisé par Pelekipe Lamondo et mis en onde par Pierre Tiassinois. Grâce à Mzati Masanzi était à la présentation. Vous avez la possibilité de réécouter ce journal sur www.radiokapi.net. Merci.